Les micros de fréquence oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.
Fréquencier vous fait revivre tout l'été, planète en fait. Cette manifestation autour de l'agriculture biologique et du développement durable s'est déroulée les 6 et 7 juillet à Saint-Pierre-des-Nids en Mayenne. À l'occasion des 10 ans de Planète en Fête, une équipe de fréquenciers y a installé son studio itinérant pour recueillir les interviews des participants, exposants, producteurs, acteurs du développement durable.
Nous sommes à Saint-Pierre-des-Nids avec pour nous l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs dans tout ce qui est la défense, la préservation de l'environnement. Et évidemment, il y a quelqu'un qu'on voulait absolument rencontrer à cette occasion parce qu'on se souvient que notre territoire, il y a maintenant 13 ans, s'était mobilisé avec force parce qu'on voulait faire de ce territoire granitique une poubelle nucléaire, de déchets nucléaires. Et les gens qui ont vécu cette période, y compris le moment le plus fort à Baie, le retour en tracteur, hein, tout le monde se souvient de ça, se dit ben ça fait 13 ans. Et pourtant aujourd'hui à Saint-Pierre-des-Nids, l'association donc du Quadramen que vous présidez, Michel Lemosquet, est présente. Est-ce à dire que l'action continue?
Bien évidemment, on n'a jamais lâché, on s'est un petit peu diversifié, on a toujours travaillé la question du nucléaire, on le travaille encore toujours, mais on a aussi travaillé les alternatives positives pour une nouvelle politique énergétique, à savoir la maîtrise de l'énergie, les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et le développement des renouvelables. C'est un peu le trépied nouveau maintenant des alternatives énergétiques. Bon, ça rejoint un petit peu le scénario Négawatt, hein, qui est un scénario qui propose beaucoup d'alternatives, qui a été retenu d'ailleurs dans le débat sur la transition énergétique.
Pour ce qui est de la question de l'enfouissement des déchets, il y a un site actuellement quand même sur lequel l'expérimentation est largement poussée, c'est le site de Bure dans la Meuse, si je ne me trompe. Est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est? Parce que je suppose que vous suivez ce dossier de très près.
Oui, alors c'est le débat public autour du projet d'enfouissement de Bure, hein, qui n'est pas sans poser de problème d'ailleurs, puisqu'il y a énormément de questions qui sont pas résolues, et surtout au regard de ce qui se passe à l'international. Les Américains, par exemple, ont remis le dossier d'enfouissement à plat. Beaucoup de pays s'interrogent, et les Allemands, par exemple, ne sont pas partisans d'un enfouissement profond, remettent plutôt en cause cette option-là. Et nous, on continue sur cette option d'enfouissement profond, quoi, qui est pas à notre avis réversible en cas de problème.
Alors concrètement, la filière nucléaire étant loin d'être en situation de cours de démantèlement en France, par exemple, et ailleurs dans le monde, les déchets donc vont continuer à être générés par cette production nucléaire. Quelle est la solution? Parce que c'est bien de chercher évidemment des solutions alternatives en matière de production, mais les déchets sont là. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait?
Oui, tout à fait. Les déchets sont là et il va bien falloir les gérer. Je pense que la meilleure solution aujourd'hui, c'est de les maintenir en subsurface, qu'ils soient accessibles et qu'ils soient surveillés de très près. C'est un stockage à sec en subsurface, ça paraît être la solution la plus plausible aujourd'hui. On peut pas se permettre d'enfouir des déchets sans avoir la certitude de leur évolution après.
Aujourd'hui, on a un questionnement autour de Fessenheim lors du débat qu'il y a eu sur la déclaration du ministre, donc Delphine Batho, est revenu la promesse de François Hollande de stopper prochainement Fessenheim. promesse qui semble pas forcément bien en vue. C'est vraiment important de stopper Fessenheim.
Alors je pense que c'était une promesse du président Hollande, c'était une promesse qui en matière d'énergie électrique est déterminante, à savoir de faire passer la part de nucléaire de 75% à 50%, c'est vraiment un axe majeur, c'est un élément déterminant dans le débat sur la transition énergétique, et force est constatée dans l'éviction de Delphine Bateau. Je crois qu'il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé. Il y a en France une particularité avec un lobby nucléaire très très fort qui fait pression sur une classe politique qui est à l'évidence aussi majoritairement acquise à la cause nucléaire et qui facilite pas ce débat. Et c'est un peu la problématique. C'est ce qui nous différencie beaucoup, par exemple, de l'Allemagne, où la classe politique droite et gauche réunie a acté la sortie du nucléaire.
Alors vous, localement, comme de nombreuses associations en France et ailleurs dans le monde, vous avez lutté dans un premier temps contre l'enfouissement des déchets ici. Il y avait une urgence, combat vainqueur. C'est pas souvent, finalement, les combats vainqueurs dans ce domaine-là. Oui, vous pensez aussi que c'était une victoire
Je crois que c'était une grande victoire, oui, parce qu'elle a remis quand même le dossier à plat. Bure était effectivement engagé bien avant la recherche des sites granitiques, mais en ce qui concerne les sites granitiques, ça a été pour l'instant abandonné. Bon, c'est pas
oui, même c'est, du côté de Limoges, tout ça,
oui, c'est
abandonné.
C'est en sommeil, quoi. Tout se concentre sur Bure et ce qui se dégage aujourd'hui, c'est de prendre des éléments dans des sols granitiques ailleurs, mais pas forcément expérimenter ça chez nous. On en reste à Bure pour l'instant.
Finalement, quand on se rappelle cette période de mobilisation, indépendamment de l'enjeu même du nucléaire, il y a eu une mobilisation citoyenne exceptionnelle sur ce territoire. C'est quand même quelque chose, ça, dans l'histoire de ce territoire-là, des Couévrons de l'Est Mayenne, de l'Ouest Sarthe pour nous.
Ouais. Je crois que ça tient surtout au fait que c'est une région rurale où la population est très ancrée sur le territoire. En fait, vous avez d'abord un nombre d'exploitations agricoles important par rapport à beaucoup de régions de France. Et vous avez aussi dans la population, en fait, toutes les familles sont d'origine agricole ou pas très éloignées. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que toute l'activité agricole, débouche sur des emplois, soit au niveau de la transformation, soit en aval et en amont de l'agriculture. Et chacun se sent concerné et a bien compris que si on détériorait l'image de ce territoire, on aurait des problèmes à valoriser les productions agricoles. Je crois que c'est le fondement un petit peu.
Alors aujourd'hui, justement, à Saint-Pierre-des-Nids, on valorise non seulement ce territoire, non seulement le potentiel créatif en matière de pratiques alternatives des habitants de ce territoire, mais on va aussi au-delà. Alors vous-même, votre présence ici, quels sont les points sur lesquels vous mettez l'accent sur votre stand ?
Alors sur le stand, là, on le questionnement, en fait, tous les gens qui passent nous questionnent beaucoup sur les énergies renouvelables et sur la maîtrise de l'énergie. Alors c'est toujours la même chose, le développement des énergies renouvelables est absolument indispensable, mais il faut lui mettre en même temps la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique. Ces trois piliers, c'est un trépied et il faut que les trois piliers soient toujours équilibrés. Et on ne pourra pas, à l'avenir, faire de politique énergétique sans éviter le gaspillage et sans améliorer l'efficacité.
Pour vous contacter, comment on procède ? Vous êtes installé sur Baie toujours ou...
Oui, on est sur Baie et puis on est bien connu de tout le territoire.
Je crois que oui.
Il n'y a pas de souci. Bon, on est quand même bénévole, mais ça tourne et maintenant, il n'y a pas de souci. On est souvent demandé pour intervenir dans les lycées.
Vous faites ce genre d'intervention ?
Oui, on fait beaucoup
ça, c'est
de
bien,
genre
ça,
d'intervention. Oui, il y a beaucoup de... Je vois que ce soit Évron, à Maillot, Mayenne, à Laval, on est souvent demandé. Et puis aussi par le milieu associatif, bien évidemment.
Hein. L'information, ça vous paraît quelque chose, le travail de base aujourd'hui à faire?
Oui, oui, parce que l'énergie, c'est quelque chose de complexe. Et c'est toute la difficulté, parce que on est dans une société aujourd'hui où il faut des messages courts. Et en énergie, c'est très, très compliqué. Donc nous, on s'efforce d'expliquer... Et puis aussi de faire des débats contradictoires. Hein. On dit pas que il faut accepter aussi qu'il y ait des gens qui aient d'autres points de vue. Et c'est en débattant et qu'on arrive à faire émerger des solutions intelligentes et qui font consensus.
Très bien, Michel Lemesquet, merci donc pour cette intervention sur cette planète en fait de Saint-Pierre-Denis. Vous représentez le Coedramen, dont vous êtes le président. Merci à vous. Saint-Pierre-Denis, c'est l'occasion pour de nombreuses associations de faire connaître leurs préoccupations, le terrain sur lequel elles luttent ou elles essayent de convaincre le public de façon générale. Et il y a là une question assez intéressante qui est soulevée par une association qui s'appelle ALIS, Association Liberté Information Santé, qui a son siège quelque part du côté de l'Auvergne, à Rion pour être précis. Mais ici, c'est Serge Mousset qui est trésorier de l'association nationale et qui est également délégué régional pour la Sarthe et les départements voisins comme la Mayenne, qui est présent. Alors, vous affichez sur votre stand une idée qui est la liberté pour la vaccination. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste pour vous l'enjeu derrière cette idée-là ?
Alors, ce que nous demandons, c'est la liberté pour chaque individu de choisir librement de se faire vacciner ou pas. Dans la mesure où nous savons que depuis tout temps où les vaccinations ont existé, depuis Jenner notamment, eh bien, il y a toujours eu des accidents qui ont suivi des vaccinations. Hein, et ce, pour toutes les maladies pour lesquelles on a fabriqué un vaccin.
Alors évidemment, je vais vous dire ce que tout le monde vous dit quand vous êtes en interview. Il y a bien sûr ces cas-là, mais il y a aussi tout ce que ça a pu sauver, toutes les personnes que ça a pu sauver.
C'est ce que l'on dit effectivement, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en même temps que l'on a développé la vaccination, et ce pour toutes les épidémies qui ont eu lieu dans le passé, eh bien, on a amélioré les conditions d'hygiène de la population. Et quand on a rendu les vaccinations obligatoires pour différentes maladies, très souvent, dans la majorité des cas, les épidémies étaient en forte régression. Et je peux vous montrer des exemples de graphiques qui l'ont démontré à partir de documents officiels.
Alors, rappelez-nous aujourd'hui, quelles sont les vaccinations obligatoires ? Alors, on oublie aussi un peu tout ça.
Oui,
on
sait bien plus sûr, trop. Bien sûr, oui. Surtout que ça change beaucoup et selon les discours, eh bien, la population est un petit peu perdue. Seules ne sont obligatoires au regard de la loi, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la polio pour la population générale.
Est-ce que ces maladies-là sont en recul, ont disparu ?
Bien sûr. En France, ce sont des maladies qui ont complètement disparu. Elles ont complètement disparu. Et la vaccination, effectivement, ne sert à rien. Alors, on me dira que si elles ont disparu, c'est grâce à la vaccination, ce qui est faux, puisque, en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout simplement lorsqu'on a amélioré les conditions d'hygiène. Et notamment pour la polio, puisque on sait très bien que la polio est due à des virus qui sont placés dans l'intestin, qui situent l'intestin, et donc on retrouve dans les matières fécales. Et comme autrefois à une époque, eh bien, très peu de gens consommaient de l'eau potable. Il n'y avait pas le tout à l'égout partout dans les communes de France, et qui était souvent effectivement un moyen de propagation, puisqu'on vidangeait les fosses septiques très souvent dans les champs ou dans les rivières, et que les enfants à cette époque se baignaient dans les rivières et par conséquent absorbaient des virus vaccinaux. Mais tous ne contractaient pas la poliomyélite puisque leur système immunitaire était suffisamment fort pour résister.
Donc le fond de votre démonstration, c'est de dire, maintenant, il n'y a plus les causes, bien finalement, des maladies, donc il n'y a plus de raison de vacciner.
Tout à fait.
Est-ce que ce que vous dites est aussi valable, par exemple, pour des continents comme l'Afrique ?
Alors, pour les continents, pour l'Afrique, eh bien, dans la mesure où les conditions pour que ces maladies se développent sont présentes, elles se développent. Mais si, là aussi, en Afrique, au lieu de vacciner à tour de bras les petits Africains avec la vaccination contre la rougeole, entre autres, la polio, eh bien, on leur donnait de l'eau potable, faisant en sorte qu'ils aient accès à l'eau potable, qu'on puisse évacuer leurs eaux usées, qu'ils puissent avoir une bonne nourriture, eh bien, on résoudrait les problèmes de la polio. Mais on les vaccine, ce qui va abaisser leur système immunitaire, affaiblir leur système immunitaire, chez des enfants qui sont déjà, dont le système immunitaire est déjà affaibli par la malnutrition, par beaucoup de choses, par les problèmes, le manque d'hygiène, bien entendu.
Alors, qui a intérêt à entretenir tout ce réseau de vaccination ?
La vaccination rapporte évidemment beaucoup d'argent aux fabricants de vaccins. La preuve en est, puisque aujourd'hui, seul le DTP est obligatoire au regard de la loi, et ce vaccin seul n'existe plus. On le trouve combiné à d'autres vaccins, c'est-à-dire qu'on force les parents à accepter, à vacciner l'enfant avec des vaccins qui ne sont pas obligatoires, hein, tels que la coqueluche, tels que l'hémophilus, tels que l'hépatite B. Et l'autre avantage pour les fabricants, c'est que le vaccin DTP coûtait aux alentours de 6 à 7 euros. Le vaccin qui contient 6 valences coûte voire entre 40 et 50 euros.
Est-ce que vous nous diriez qu'à une époque, la vaccination a été un vrai moyen de lutte contre des graves problèmes de santé et qu'aujourd'hui, c'est finalement la poule aux œufs d'or pour des industriels ?
Bien sûr, bien sûr. De toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas la vaccination qui a résolu les problèmes d'épidémie. Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on a lancé des campagnes massives de vaccination, on a provoqué des flambées épidémiques de la maladie en question. Et ça, je peux vous le montrer aussi sur des courbes.
Alors, on a quand même tous en tête quelque chose qui n'est pas que du domaine de l'anecdote. C'est la fameuse vaccination contre la... C'était la grippe aviaire, si je ne me trompe pas. La fameuse grippe A, Bachelot et ses achats de...
Bien sûr.
Quel regard vous jetez sur cette histoire-là avec quelques années donc,
bien sûr.
De recul ?
De nombreux médecins eux-mêmes se sont aperçus que c'était une vaste escroquerie, puisque de toute façon on nous disait que le virus en question, il était virulent, mais peu, il était très contagieux, mais peu virulent. Donc quel intérêt était de vacciner ? Bon, c'est vrai que peu de gens se sont laissés vacciner, on a quand même acheté et payé un grand nombre de vaccins. Mais c'était une véritable affaire financière. Et là aussi, quand on voit comment la population est manipulée, pour la vaccination, on fait accepter la vaccination en faisant peur aux gens, hein, peur de la maladie, en donnant des chiffres importants, etc., etc. Et on l'a bien vu pour la grippe A, puisque quand on a commencé à nous montrer dans les aéroports, dans beaucoup de lieux, les gens avec des masques, hein, et on a vendu des masques, etc.
Oui, la com joue un rôle important là-dessus.
Bien entendu, la communication.
Est-ce que ça vous paraît être la vaccination obligatoire une atteinte à la liberté individuelle ?
Tout à fait, c'est une atteinte. C'est contraire à un ensemble de codes.
Il y a des textes qui,
du code civil,
normalement, oui, le code civil, voilà, par exemple, que dit le code civil ?
Il y a des articles qui mettent en cause ces obligations, bien entendu. Alors, je ne saurais pas vous les donner par...
De tête comme ça.
De tête, mais oui, je les ai, hein, pas de problème.
Est-ce qu'il y a déjà eu des affaires de procès, carrément, de gens qui avaient été vaccinés, voire d'enfants qui avaient été vaccinés par leurs parents et qui est-ce que c'est déjà devant la justice ?
C'est très difficile, et notamment beaucoup de gens qui ont été victimes d'effets secondaires, notamment avec l'hépatite B, certaines victimes ont intenté des procès. Mais c'est très difficile parce que, effectivement, sur le plan scientifique, on ne peut pas mettre en évidence le lien de cause à effet. Donc c'est très très difficile de prouver. Mais néanmoins, il y a quand même un très très grand nombre de témoignages où les effets secondaires sont apparus suite à la vaccination.
Vous intervenez publiquement dans des réunions, alors en dehors
de manifestations,
comme celle-ci, bien sûr.
Je fais régulièrement des conférences sur les stands de certaines foires bio ou salons, quand on me le demande, ou même pour des groupes sur la santé, qui réfléchissent à la santé, j'interviens, des exposés.
La réflexion.
Des jeunes mamans, etc.
Voilà, réfléchir.
Faire en sorte que les gens se posent la question et puis qu'ils cherchent ensuite à s'informer plus... de façon plus importante et faire leur choix.
C'est sûr que les jeunes mamans, ça doit sûrement être les plus préoccupés par rapport à ces questions de vaccination, faire ou ne pas faire.
Bien sûr, bien sûr. D'autant plus que le discours...
Avec une réelle angoisse.
Bien sûr.
L'idée de responsabilité quand même, faire le bon choix.
Tout à fait, parce que quand on est jeune maman, jeune parent, on veut protéger son enfant, faire le maximum pour son enfant. Et effectivement, les médecins, la majorité des médecins du corps médical a tendance à exercer des pressions, et notamment par la culpabilité. On culpabilise la maman en disant, vous vous rendez compte, si votre enfant meurt de cette maladie, voilà, on l'accuse. Et y compris pour les jeunes mamans, pour les mamans de jeunes filles de 14 ans, que l'on incite à vacciner contre le cancer du col de l'utérus, avec le vaccin du cancer.
Emmanuel Bouget, qui est à la technique avec nous tout de suite, là, me suggère de loin, vous parlez un peu aussi de la vaccination des animaux, la vaccination obligatoire. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe ?
La vaccination chez les animaux, oui, un petit peu, mais...
Parce que pour coûter cher, ça coûte cher.
Bien sûr, bien sûr. Mais vous avez vu une publicité à une époque, une grande opération de communication à propos des animaux, notamment des animaux domestiques, pour la plupart des gens, chats et chiens, et qui disait « je l'aime, je le vaccine ». Très puissant, très fort. Mais oui. les problèmes sont exactement les mêmes.
Mais ce n'est pas votre champ de préoccupation directement.
Non, pas tout à fait. Vous êtes dans la mesure, si vous voulez, où il n'y a pas d'obligation réelle de vaccination pour les animaux domestiques, pour tout un chacun, sauf dans certaines circonstances, lorsqu'on va dans d'autres pays, parfois, il y a des obligations.
Enfin, en tout cas, si on veut en savoir plus sur les enjeux qu'il y a derrière le choix de vacciner ou pas, avoir un point de vue sur les vaccinations obligatoires, donc on peut contacter Alice, l'association Liberté Information Santé. Le moyen le plus simple, quand on est dans notre région, c'est de vous contacter.
De me contacter.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, vous pouvez m'appeler au 02 43 47 82 01.
Voilà, bah très bien. Donc, nous recevions Serge Mousset, Association Liberté Information Santé, pour une réflexion autour de la question de la vaccination. Merci à vous, monsieur Mousset.
Je vous remercie.
Les micros de Fréquence Oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.
Fréquence Oscillée vous fait revivre tout l'été, planète en fête. Cette manifestation autour de l'agriculture biologique et du développement durable s'est déroulée les 6 et 7 juillet à Saint-Pierre-des-Nids en Mayenne. À l'occasion des 10 ans de Planète en Fête, une équipe de fréquenciers y a installé son studio itinérant pour recueillir les interviews des participants, exposants, producteurs, acteurs du développement durable.